Les cours du Collège de France, Histoire turque et ottomane, Gilles Weinstein.
Mesdames et messieurs, qu'est-ce que le defşirme ? Nous sommes restés la dernière fois sur cette question. La plupart des voyageurs visitant l'Empire ottoman entre le XVe et le XVIIe siècle y sont allés de leur description de cette pratique aussi singulière que révoltante. Et ces voyageurs se copient les uns les autres, faute d'informations ou d'expériences personnelles. Les inexactitudes ne sont pas rares dans toutes leurs descriptions, et nous avons les moyens d'en corriger aujourd'hui un certain nombre. Prenons par exemple, parmi de très nombreux exemples possibles, ce qu'écrit Nicolas de Nicolaï au milieu du XVIe siècle, non sans répéter d'ailleurs un voyageur antérieur, Antoine Geoffroy. « Azam Olan, dit-il, donc les Adjemi Olan, sont les enfants que le grand Turc envoie lever par forme de tribus de 4 en 4 ans par toute la Grèce, Albanie, Valachie, Servie, c'est-à-dire Serbie, Bosine, Bosnie, Trébizonde et, il ajoute, Mingrélie, la Mingrélie, la partie occidentale de la Géorgie. Alors déjà, il y a plusieurs inexactitudes dans son énumération, puisque la Valachie et la Mingrélie, précisément, ne sont pas soumises, comme nous le verrons, aux campagnes de defşirme. Et il poursuit. Et autres provinces de sa domination sur les chrétiens habitant en Nicelle, levant par tyrannie plus que barbare de 3 enfants mâles, un pris et choisi à la volonté du commissaire. Donc, vous voyez, il nous dit qu'on prend un enfant sur 3, ce qui est faux, comme nous allons le voir. Tyrannie, dis-je, de rechef, trop cruelle et lamentable, qui devrait être de grande considération et compassion à tout vrai prince chrétien pour les émouvoir et inciter à une bonne paix et union chrétienne et à réunir leurs forces unanimes pour délivrer les enfants de leurs frères chrétiens de la misérable servitude de ces infidèles qui, par outrageuse impériosité, ravissent les plus chers enfants et corps libres par nature du giron de leurs géniteurs et génitrices, en asservissement d'hostilité plus que bestiale, de baptême à circoncision, de compagnie et foi chrétienne à servitude et barbare infidélité, de piété filiale et parentale à inimitié immortelle vers leur propre sang. Donc, vous voyez, il y a en fait trois crimes qui sont dénoncés. Non seulement ces enfants sont enlevés des bras de leurs géniteurs, mais ils sont convertis de force. Et une fois convertis, ils vont devenir les ennemis de leurs propres parents, de leur propre race. Et Nicolaï poursuit en décrivant un peu comment tout cela se passe. « Pour exécuter, dit-il, telle lamentable levée, sont ordonnés plus de 200 commissaires, lesquels, retournant à Constantinople, amènent un nombre incroyable de ces enfants. » Alors la question est posée, quels sont les effectifs ? Combien d'enfants ces campagnes de defşirme concernent-elles ? Nous allons essayer, là encore, de répondre, non sans mal d'ailleurs, à cette question. Puis il évoque la sélection qui est faite une fois arrivé à Constantinople. Entre lesquels, dit-il, les plus beaux sont choisis pour être mis au sarail du grand seigneur turc, où ils sont nourris et endoctrinés en la loi de Mahomet et par divers maîtres eunuques instruits à bien piquer chevaux, tirer à l'arc, etc. Donc ça, c'est la crème, c'est-à-dire ceux dont on va faire des pages du palais et qui vont recevoir une éducation soignée sous la coupe des eunuques chargés de les surveiller. Puis Nicolaï parle des autres, de ceux qui n'ont pas été sélectionnés, qui n'étaient pas les plus beaux, comme il dit, et qui deviennent ces Adjémiolan dont je vous ai pas mal entretenu ces dernières semaines. Les plus grossiers, on les députe, les uns à porter de l'eau ou du bois par les offices, les autres à tenir net le sérail, et en hiver, ça c'est une chose qui l'a frappé, recueillir la neige qui tombe de l'air pour la resserrer sous terre en un lieu appelé Karluk, c'est-à-dire l'endroit où on met la neige. Et je vous ai parlé effectivement de cette fonction qui est une des fonctions parmi beaucoup d'autres de ces Adjémiolan de transporter la neige depuis l'Olympe de Bithynie, près de Boursa, Loulouda, et de la conserver afin que la population du palais puisse boire frais pendant les chaleurs. Les autres sont faits jardiniers ou cuisiniers ou bien sont baillés au service des janissaires, spahis ou capitaines, auquel degré par succession de temps, ainsi que la vertu et fortune les guident, peuvent eux-mêmes parvenir. Ça, c'est la promotion dont ils peuvent bénéficier s'ils ont montré des mérites. J'ai évoqué la semaine dernière, en fin de séance, l'horreur que peut susciter cet arrachement des enfants à leurs parents, l'apostasie à laquelle ils sont contraints. Et on en trouve, bien sûr, un écho dans toutes les productions folkloriques, les contes, les chansons, les ballades des peuples concernés et surtout des peuples balkaniques. Et on en trouve aussi l'écho des lamentations que suscite ce rapt des enfants chez les différents voyageurs. Alors déjà, nous en avons eu un échantillon avec Nicolas de Nicolaï, mais je pourrais aussi bien citer un autre témoin qui, pas plus que Nicolas de Nicolaï, n'est particulièrement turcophobe, bien au contraire. Ce sont là des auteurs souvent plus turcophiles que la moyenne. Mais il y a une chose qui ne passe pas, c'est le Defshirmeh. Et donc, voici ce qu'écrit Guillaume Postel, ce second témoin plutôt turcophile. « Qui vit jamais un piteux cri de gens venant après leurs enfants qui s'en vont en diverses lois, c'est-à-dire qui vont suivre une autre loi, une autre religion, et puissance et servitude, je le vous laisse à penser, car plus hideux n'est vu. » Je n'ai jamais vu une chose plus hideuse. Dans le même temps, le même Guillaume Postel et bien d'autres auteurs sont conscients de l'ambivalence de cette pratique. D'un côté, elle a cette face noire, effrayante et révoltante, de l'enfant, mais s'agit-il vraiment d'enfant ? nous aurons l'occasion d'en reparler, arraché des bras de ses parents. D'un autre côté, le Devshirmeh offre à ces mêmes individus une chance extraordinaire de promotion sociale et, dans les meilleurs des cas, elle peut apporter, ou il peut apporter, le Devshirmeh, une élévation sociale, une puissance et une fortune fabuleuse quand les éléments qui en sont issus accèdent aux plus hautes charges de l'État et notamment à celles de grands vizirs, de gouverneurs provinciaux, de chefs d'armée. Donc toutes ces hautes places sont accessibles aux enfants du Devshirmeh, étant bien entendu que parvenus aux hautes sphères, ils y encourront tous les dangers que peut présenter la survie dans les hautes sphères en général, et notamment dans le cas ottoman. À tout le moins, le Devshirmeh, même quand il ne mène pas à ses brillantes destinées, assure à ses recrues un avenir garanti, une situation sûre du bon côté de la barrière sociale, puisque ses fils de paysans chrétiens, ce sont la plupart des fils de paysans chrétiens, soumis à tous les aléas de la condition paysanne et soumis au poids des impôts, c'est réaïa, comme on les appelle, c'est le terme qui désigne ces sujets du sultan, deviennent des askers, c'est-à-dire des agents de l'État au sens le plus large, du côté du pouvoir et exempts d'impôts, même quand ils restent à un niveau subalterne, ils sont malgré tout du côté des askers et ils ont été libérés de la dure condition de réaïa. Et le même Guillaume Postel en prend acte en écrivant « Quiconque est payé de solde du Turc, qui reçoit une solde du sultan, s'estime être autant gentilhomme comme est le grand Turc même. » On retrouvera d'ailleurs la même idée chez d'autres auteurs et elle est développée avec une éloquence particulière chez un autre voyageur important du XVIe siècle, Belon, Pierre Belon du Mans, par exemple. Belon écrit « Celui entre les Turcs tiendra la première dignité après le grand seigneur, qui ne sait dont il est, ni qui sont ses pères et mères, dit-il. » En réalité, nous verrons qu'ils savent très bien qui sont leurs pères et mères. « Un, c'est-à-dire mais, quiconque est payé de soult du Turc s'estime être autant gentilhomme comme est le grand Turc même. » Vous voyez, c'est à peu près les mêmes formules que celles de Postel. « Le plus grand honneur et bien que puisse avoir un homme en Turquie est de s'avouer être esclave du Turc, comme en notre pays, disons, être serviteur de quelque prince. » Cette ambivalence du Devshirmeh a pour conséquence paradoxale qu'une part au moins de ceux qui y sont soumis cherche à y échapper par tous les moyens, que ce soit la fuite ou la corruption des recruteurs, dans le même temps que d'autres, des musulmans cette fois, font tout ce qu'ils peuvent pour s'y introduire frauduleusement alors que l'accès leur en est rigoureusement interdit. Cette institution pose décidément bien des questions. Quand apparaît-elle dans l'histoire ottomane? Où dans quelle partie de l'Empire est-elle plus précisément appliquée ? Quelles populations exactes sont-elles visées ? Comment tout cela est mis en œuvre ? Mais la plus brûlante peut-être de ces questions, et qui peut-être vous vient spontanément à l'esprit, pourquoi prendre de jeunes chrétiens pour en faire des combattants de l'islam ? Et pourquoi tenir soigneusement les musulmans de naissance à l'écart de cette infanterie des janissaires, pourtant fer de lance des conquêtes de l'islam ottoman? Eh bien, je vais tenter de répondre à ces questions. Et d'abord, première question, quelle est la date exacte de la naissance de l'institution du Defshirmeh? Nous avions vu que le Penjek, dont je vous ai longuement parlé, le prélèvement d'un cinquième du butin au bénéfice du trésor, avait été, selon la tradition que j'ai discutée, institué au plus tard sous Mourad Ier, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XIVe siècle, même si des formes de prélèvement avaient certainement existé auparavant, et si le bey n'avait pas encore utilisé les captifs qui lui revenaient pour en faire un corps d'infanterie comme les janissaires. En revanche, les mêmes chroniqueurs de la fin du XVe siècle qui évoquent, dans ces termes que nous avons analysés, l'institution du Penjek et la création des janissaires, ne parlent pas du Defshirmeh. Ils ne le présentent donc pas comme une source initiale d'approvisionnement en hommes du corps des janissaires. Et ils laissent donc conclure que le Defshirmeh ne serait apparu que plus tard, que donc il serait postérieur au Penjek. Seul un de ces chroniqueurs, mais dont nous avons déjà vu qu'il divergeait de ses pareils, Idriss Bitlissi, début du XVIe siècle, attribue la création du Defshirmeh, comme d'ailleurs celle des janissaires, à Orhan, le deuxième des beys ottomans, ce qui mettrait le Defshirmeh chronologiquement avant le Penjek. Mais c'est là une thèse à contre-courant. Et il est plus vraisemblable que les Ottomans se soient d'abord mis à l'école de ce qu'avaient fait tous leurs prédécesseurs et qui était conforme à la charia, c'est-à-dire de prendre pour esclaves uniquement des captifs étrangers, avant de s'engager sur une voie plus nouvelle, mais beaucoup plus périlleuse sur le plan de l'orthodoxie religieuse. Et il est vraisemblable de supposer que s'ils se sont résolus à le faire, ce fut par besoin, sous l'empire de la nécessité. Et plusieurs sources nous le disent expressément. Si les Ottomans se sont tournés, à un moment donné, vers les fils de leurs propres sujets chrétiens, quitte à risquer de porter atteinte à la capacité productive de ces sujets, de ces paysans dont le travail supporte l'État, c'est que les jeunes captifs étrangers ne suffisaient plus à satisfaire leurs besoins militaires. L'ottomaniste grec, mon collègue Vassilis Demetriades a même émis l'hypothèse, dans un article publié en 1993, que le Defshirmeh dériverait à l'origine du Penjek, tel que celui-ci était pratiqué par ses chef de raideur, c'est chef d'Akenje, dont je vous ai parlé, et notamment par Evrenos Bey, le plus important de ces chefs d'Akenje, en Macédoine. Une fois ces territoires infidèles à l'origine conquis, ils auraient continué à y prélever de jeunes esclaves, comme ils avaient l'habitude de le faire quand ces territoires étaient encore chrétiens et qu'ils y menaient des raids. Et quand enfin les mêmes territoires, conquis dans un premier temps par les Beys d'Akenje, avaient été officiellement incorporés dans un deuxième temps à l'Empire ottoman, les autorités ottomanes elles-mêmes auraient continué à leur tour à faire ce que les chefs de raideurs, les Beys d'Akenje, avaient fait avant elles. Elles n'auraient, ces autorités, fait que suivre cet exemple, exemple douteux, parce que les autorités ottomanes y auraient trouvé leur intérêt. Quoi qu'il en soit, donc, de cette hypothèse proposée par Démétriades, le Defshirmay ne se substitue pas dans un premier temps au Pendjek. Il le complète. Et c'est cette complémentarité, non pas à des époques successives, mais à une seule et même époque, que notre janissaire serbe, Constantin Mihailovic, dont nous avons retracé ensemble les aventures, eh bien, si je me tourne de nouveau vers ses mémoires, vers ce qu'il écrit, nous allons constater qu'il exprime très clairement ce qu'a pu être, dans une première phase, le rapport entre Pendjek et Defshirmay. Il écrit en effet « Quand les Turcs envahissent des pays étrangers et s'emparent de leur population, un scribe impérial arrive immédiatement derrière eux et, quel que soit le nombre des garçons présents, il les prend tous pour en faire des janissaires et donne 5 pièces d'or pour chaque. » Bon, ça, cette description correspond assez fidèlement au Pendjek, tel que nous l'avons vu, et tel qu'il est réglementé, notamment, par ce firman de Bayezid II de 1493 que nous avons commenté. Donc, il nous dit qu'il les prend et il les envoie de l'autre côté de la mer, c'est-à-dire dans des familles turques pour y être formées. Il y a environ 2000 de ces garçons. Et puis, Constantin poursuit. Si, cependant, le nombre de ceux, les captifs, qui proviennent des peuples ennemis ne suffit pas, alors l'empereur turc les prend des chrétiens dans chaque village de son propre pays qui possède des garçons ayant établi le maximum de ce que chaque village peut fournir de sorte que le quota soit toujours atteint. Et cette fois, c'est une description assez juste et précise du Defshirmay qu'il nous donne. Et donc, il nous présente ce Defshirmay comme venant en complément, n'est-ce pas, du Pendjek, quand celui-ci n'a pas produit autant de recrues qu'il le fallait. Et si nous nous tournons maintenant vers une autre des sources que je cite souvent, les Kavanini Yenicherian, n'est-ce pas, un ouvrage anonyme du début du XVIIe siècle, eh bien, nous trouvons là encore une description assez précise de la relation entre Pendjek et Defshirmay. En effet, l'auteur anonyme de ce traité sur les règlements des janissaires désigne comme Pendjek Olane, garçon provenant du Pendjek, les garçons issus du Defshirmay. Il emploie d'ailleurs très rarement, presque jamais, le terme Defshirmay, mais malgré tout, il le décrit de façon tout à fait claire. Et, je le répète, il appelle les recrues du Defshirme des Penjek Olane. Et il explique cette désignation qui nous paraît paradoxale, alors que nous avons mis tant de soin à distinguer les deux notions, par le fait qu'à l'origine, on a en effet formé le corps des janissaires à l'aide du Penjek en lançant des raids, dit-il, contre le bourg de Bilejik, une bourgade qui se trouve en Anatolie, à l'est de Boursa. Et d'après lui, j'avais fait référence à cette mention, qui est une mention tout à fait singulière de cet auteur. D'après lui, les premiers prélèvements du Penjek se seraient faits lors des raids, tout ceci dans les tout débuts de l'État ottoman, contre cette bourgade de Bilejik, qui n'avait pas encore été conquise, qui était encore chrétienne, et dont les Ottomans auraient tiré 300 garçons, dit-il. Et puis, il continue, par la suite, on les a recrutés, toujours ces Penjek Olane, parmi les Reaya. Voilà. Voilà comment il introduit la mise en place, dans un second temps, du Defshirme, qu'il ne nomme d'ailleurs pas par son nom. Son propos, comme vous voyez, est clair, en même temps qu'il est remarquablement laconique et dénué de tout commentaire, c'est-à-dire qu'il n'entre pas dans une discussion sur l'éventuelle illégitimité de ce procédé. Il dit tout simplement qu'on a fait comme ça. D'ailleurs, l'auteur ne parle absolument plus par la suite du Penjek. Il ne parle, comme source de recrutement des janissaires, que du Defshirme, même s'il n'emploie pas le terme. Pourquoi ? Parce que, comme nous l'avons vu, le Penjek, au cours du XVIe siècle, et cela est encore plus vrai au début du XVIIe, a cessé de jouer son rôle comme fournisseur de recrues pour les janissaires. Le Penjek est devenu obsolète au moment où il écrit, et c'est donc uniquement du Defshirme qu'il parle. Si nous quittons à présent l'empiré des hypothèses pour poser un pied sur le terrain plus ferme des faits, les plus anciennes attestations de l'existence du Defshirme, ou, pour être plus prudent, de certaines formes du Defshirme, remontent à l'extrême fin du XIVe siècle. Vous voyez, j'avais parlé pour le Penjek d'une institution dans la seconde moitié du XIVe. Il ne commence à être question dans les sources, d'ailleurs des sources très rares, du Defshirme qu'à l'extrême fin de ce même siècle. Et en réalité, à l'heure actuelle, on ne connaît que deux textes significatifs ramenant à cette période, ramenant à la fin du XIVe siècle et évoquant de manière non ambiguë le Defshirme. Le premier de ces textes, bien connu, date de 1395 et il se rapporte à la première occupation ottomane de la ville de Salonique. Salonique a été conquise une première fois par les Ottomans sous Bayezid Ier à la fin du XIVe siècle. Et puis, elle a été restituée plus tard, au début du XVe, aux Byzantins, qui en ont confié la garde et qui, en fait, l'ont remise, la ville de Salonique, aux Vénitiens. Et c'est sur les Vénitiens que, finalement, en 1430, les Ottomans la conquerront définitivement. Enfin, définitivement, jusqu'en 1912, n'est-ce pas ? Eh bien, le texte dont, que je vous annonçais est contemporain de la première occupation ottomane de Salonique. Et il s'agit de l'homélie de l'archevêque, archevêque orthodoxe bien entendu, de la ville, d'Isidore Glabas. Que dois-je dire? Que dois-je penser? Comment dois-je vous regarder? Déclare-t-il à ses ouailles dans son homélie. Connaissant l'horrible catastrophe qui s'est abattue sur nous à cette heure, l'horreur me remplit lorsque j'écoute la terrible sentence prononcée contre nos bien-aimés. Je me sens comme devant un feu inapprochable ou une épée invincible. Car qu'est-ce qui pourrait dépasser la douleur d'un homme qui voit l'enfant qu'il a engendré et élevé, sur qui il a versé maintes larmes, priant pour qu'un jour il le voie atteindre le sommet du bonheur, lorsqu'il regarde ce même enfant soudain agrippé par des mains étrangères et brutales et forcé d'accepter des coutumes et des manières étrangères. Il est terrible de savoir que dans peu de temps, l'enfant grandira pour devenir une personne portant l'uniforme d'un barbare et parlant sa langue barbare, un vase rempli d'impiété. Quelle sorte de consolation pourra apaiser l'angoisse d'un homme qui se voit, pour ainsi dire, coupé en deux morceaux, l'un emporté pour servir le mal et tomber dans la dépravation, tandis que l'autre part reste aussi inutile qu'un cadavre et pourtant empli de douleur et de malédiction. Texte combien éloquent, vous voyez, et pathétique, qui ne se contente pas d'attester l'enlèvement d'enfants chrétiens, mais qui dit d'emblée tout ce qu'il y a à dire et qu'on dira dans les siècles suivants en se plaçant du point de vue des pères de ces enfants, c'est-à-dire des propres ouailles d'Isidore Glabas. Un second texte, beaucoup moins connu, a attiré récemment l'attention de ma collègue que quelques-uns d'entre vous ont eu le privilège d'entendre au séminaire au mois de janvier, Madame Elisabeth Zachariadou. Il s'agit cette fois d'une référence de 1397, donc vous voyez 2 ans après la précédente, et donc on voit bien, malgré tout, aussi rare que soient ces échos, qu'il a dû se passer quelque chose vers ces années-là, à l'extrême fin, encore une fois, du XIVe siècle. Il s'agit d'une lettre de Coluccio di Salutati, décrivant les usages et mœurs des Turcs à la façon dont les auteurs antiques dépeignaient les hordes barbares. Il a, malgré tout, cette incise plus actuelle et plus significative. Decem ve duodecim anorum pueros ad miliciam rapiunt, n'est-ce pas? Ils enlèvent des enfants de 10 à 12 ans pour en faire des soldats. Manifestement en vigueur, donc, dès cette époque, dès le règne de Bayezid Ier, le Defchirme semble avoir connu ensuite une éclipse dans la période de morcellement et de désorganisation de l'État ottoman consécutive à la bataille d'Ankara en 1402. Le principe en est cependant maintenu au moins dans les esprits, puisqu'en 1430, Sinan Pacha pourra promettre, dans une lettre aux habitants de Janina, en Épire, de les exempter du paidomazoma, qui est un équivalent grec du defchirme, n'est-ce pas ? Il s'agit, là encore, du rapt des enfants. Donc, Sinan Pacha les exemptera de ce paidomazoma s'ils acceptent de se rendre. Et nous verrons qu'en effet, certaines villes ou certaines régions, du fait des conditions de leur conquête, ont obtenu d'être exemptées du defchirme. Et Janina en est le premier exemple connu en 1430. Néanmoins, c'est peut-être l'absence de mise en œuvre effective de l'institution dans les décennies précédentes qui fera apparaître à tort le sultan Mourad II, qui règne de 1421 à 1444, comme le fondateur du defchirme. C'est quelque chose qu'on trouve dans certains ouvrages, que le defchirme aurait été fondé, donc, vous voyez, dans la première moitié du XVe siècle, par Mourad II, et ceci repose sur un texte. On lit en effet dans la lettre d'un frère franciscain, Bartholoméus de Janot, une lettre qui est intitulée Epistola de Crudelitate Turcarum, je n'ai pas besoin de traduire, n'est-ce pas ? On trouve les mots, c'est une lettre de décembre 1438, et on y trouve les mots suivants, Decimam puerorum partem de Christianis, quod prius numquam fecerat nuper accepit. Il, c'est-à-dire le sultan Mourad II, reçut dernièrement la dixième partie des enfants des chrétiens, donc un dixième des enfants chrétiens, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Quod prius numquam fecerat. Et c'est ça qui a laissé penser à certains que c'était une innovation à ce moment-là de Mourad II. Or, dans cette lettre, non seulement le defchirme est présenté, comme vous voyez, comme une nouveauté, comme quelque chose qui ne s'était jamais fait avant, ce qui est faux, comme je l'ai dit, mais d'autre part, ce texte met en avant le taux d'un enfant sur 10, qui est, comme nous le verrons, là encore, quelque chose qui n'est pas à prendre au pied de la lettre et qui ne correspond pas à d'autres indications plus sûres que nous avons. Mais en même temps, si vous vous en souvenez, ce taux de 1 sur 10 rappelle quelque chose, c'était le taux allégué par un autre moine que j'ai eu l'occasion de citer, Georges de Hongrie, un dominicain cette fois, qui, semble-t-il, dans le cas de Georges de Hongrie, ne parlait pas du defchirme, mais parlait du penjek, et disait, j'avais attiré votre attention là-dessus, que le penjek, ce n'était pas un cinquième, mais que c'était un dixième. Il semble que, vous voyez, il y ait eu des confusions entre les deux institutions. Par la suite, donc à partir du règne de Mourad II, la pratique du defchirme sera régulièrement attestée. Pour autant, ce que nous ne pouvons pas faire, c'est établir une chronologie précise des campagnes de recrutement. Seules apparaissent, émergent de la documentation quelques dates, Et nous savons qu'à ces dates, il y a bien eu des campagnes de Defshirmeh lancées dans l'Empire. Par exemple, la date de 1573, qui est citée par Stefan Gerlach dans son journal et qui nous indique donc qu'il y a eu en 1573 une campagne de Defshirmeh à travers l'Empire. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais elle n'affleure pas nécessairement dans les sources. Et puis, il y en a une autre qui a eu lieu, et là, nous sommes très bien renseignés sur cette campagne de Defshirmeh, c'est au début de 1604. Et quand je dis que nous pouvons très bien connaître cette campagne de 1604, c'est qu'on a conservé dans les archives ottomanes à Istanbul, ce qu'on appelle les archives de la présidence du Conseil, un registre de Defshirmeh dans lequel a été noté tous les garçons pris les uns après les autres dans les villes et les villages d'Anatolie et de Roumélie au cours de cette campagne. Et ce registre, donc, sa cote, c'est Mali Eden Mudevers, parce que c'est un registre qui provient de l'administration financière, c'est ce que signifie cette expression, et il a pour numéro 7600. Plusieurs des auteurs contemporains qui parlent du Defshirmeh font état d'une périodicité régulière. Mais le problème, c'est qu'elle varie selon ces auteurs. Pour les uns, c'est tous les 3 ans. C'est ce que dit, par exemple, Stefan Gerlach. Pour d'autres, comme Postel, c'est, dit-il, tous les 3 ou 4 ans. Spandugino, quant à Cassine, et Georges de Hongrie, eux disent tous les 5 ans. Un autre auteur, Antoine Geoffroy, que j'ai déjà cité, dit de 4 ans en 4 ans. Et c'est ce que dit également Jean Chesneau, le secrétaire de l'ambassadeur d'Aramon, dans son journal. Je vous donne les noms de tous ces personnages, ou au moins de certains. Bon. Alors, comment trancher entre ces différentes informations, qui ne sont d'ailleurs pas très différentes, mais qui, comme vous voyez, connaissent quand même quelques différences? Eh bien, fort heureusement, nous disposons d'un règlement officiel, donc cette fois une pièce émanant de l'administration ottomane, un kanunname, comme j'en ai déjà évoqué plusieurs, et c'est qu'un kanunname yenicheri olanen djem eilemek ichun, c'est-à-dire un règlement pour la levée, pour le recrutement des jeunes garçons destinés à devenir janissaires. Et ce texte, comme d'autres kanun que j'ai eu l'occasion de vous citer dernièrement, date du règne de Bayezid II. Il date de la fin du XIVe siècle. Toutefois, ce règlement ne départage pas les auteurs occidentaux que j'ai cités, car de manière significative, il y a des silences qui en disent long, il n'indique justement aucune périodicité régulière, n'est-ce pas ? Ce qui laisse à penser que ça varie selon les époques, selon les circonstances et surtout selon les besoins. Ce sont les besoins en hommes qui ont dû commander et le pragmatisme ordinaire des Ottomans a dû jouer sur ce point comme sur les autres. Or, ces besoins ont fluctué, bien entendu, selon plusieurs paramètres. Les effectifs des janissaires, qui, comme nous l'avons vu, ont varié selon les périodes. Mais bien qu'avec une tendance générale à la croissance. Mais a joué également l'apport d'autres sources d'esclaves chrétiens. Et au moins dans un premier temps, il semble qu'on ait eu une espèce de principe des vases communicants entre le Penjek et le Defshirme. Enfin et surtout, ce qui peut expliquer la raréfaction progressive des campagnes de Defshirme, on voit l'apport de plus en plus massif de musulmans de naissance à l'intérieur du corps des janissaires, ce qui allait contre les principes fondamentaux, ce qui est violemment dénoncé par les contempteurs, n'est-ce pas, de la dégradation des mœurs et des coutumes. On voit bien dans la documentation que ça se produit de plus en plus, c'est-à-dire qu'on trouve de plus en plus parmi les janissaires des fils de janissaires, j'y ai déjà fait allusion, et qui comme tels sont des musulmans de naissance, et puis aussi différentes sortes de catégories qui, par des pistons divers, réussissent à s'introduire dans le corps des janissaires et entraînent tout naturellement une obsolescence progressive de la pratique du defshirme. Dans ces conditions, les prélèvements effectués sur les familles chrétiennes n'ont pu que varier en nombre absolu. Les chiffres ont dû suivre une courbe dont le pic, peut-on supposer, a dû se situer dans la première moitié du XVIe siècle, à une époque où, comme nous l'avons vu, le Penjek était devenu moins productif et où les recrues déjà islamisées n'étaient pas encore en nombre massif. Au contraire, par la suite, la place du Defshirme dans le recrutement des janissaires et dans le recrutement d'ailleurs du haut personnel politique également a diminué au profit de musulmans de naissance, fils de janissaires ou autres éléments favorisés. Dans ce contexte, les levées ne se font plus que par à-coups. Ce ne sera cependant que progressivement que la pratique du defshirme tombera en désuétude. Il y aura encore des mentions d'opérations de defshirme au début du XVIIIe siècle et selon un historien militaire beaucoup plus tardif, Djevad Pacha, la dernière opération de defshirme aurait eu lieu, je le dis au conditionnel, à une date aussi tardive que 1751. Mais encore une fois, il s'agit à cette époque d'un phénomène rare. La question du nombre des recrues du defshirme et, par conséquent, de l'impact démographique et ethnique du système est une question d'une grande portée historique et, comme telle, elle est très controversée dans les historiographies nationales des pays concernés et tout particulièrement dans les historiographies des pays d'Europe orientale. Dans quelle mesure le defshirme a-t-il été, comme ont tendance à le proclamer ces historiographies, un facteur conséquent d'islamisation et de dénationalisation, si on peut employer ce terme quelque peu anachronique pour les époques dont nous parlons, ces populations. Et en réalité, nous restons dans le vague à ce sujet. Et ce vague est propice, bien entendu, au développement des polémiques. Il est sûr que les campagnes de defshirme, quand il y en a eu, menées à travers l'Empire, étaient des opérations de grande ou même de très grande envergure, produisant plusieurs milliers de garçons. Le chiffre de 8 000 donné par Stéphane Gerlard pour 1573 semble important, 8000, mais il ne semble pas invraisemblable. J'ai relevé dans le registre MM7600, dont je vous ai parlé, qui date donc de 1604, j'ai relevé le nombre de 2296 individus enregistrés. Mais je ne peux pas affirmer que c'est la totalité du produit de cette campagne de Defchirmet de 1604, étant donné que je ne sais pas comment le registre en question a été constitué, reconstitué, et s'il recouvre bien la totalité de l'opération ou seulement une partie de l'opération. De toute façon, il faudrait reporter ces chiffres, les chiffres de chacune des opérations, au nombre total de campagnes effectuées ou à la fréquence de ces dernières pour avoir une idée précise de l'impact global, de l'impact démographique global. Or, nous n'avons pas les moyens de le faire. Quand Guillaume Postel parle de 10 à 12 000 garçons par an prélevés dans le cadre du Defchirmet, il y a assez manifestement une grande exagération. Et il est d'ailleurs très loin d'une autre estimation, d'ailleurs elle aussi sujette à caution, mais qui émane cette fois non pas d'un voyageur étranger, mais d'un historiographe quasi officiel de l'Empire ottoman, Hoxha Sadduddin, que vous avez sur l'écran, Hoxha Sadduddin, qui est un auteur de la fin du XVIe siècle, dont les dates sont 1536-1599. Eh bien, selon ce dernier, donc qui est écrit à la fin du XVIe, comme je viens de le dire, le Defchirmet aurait fourni, depuis ses origines, 200 000 convertis à l'islam. Si l'on considère que l'institution existait alors depuis quelque 200 ans, on aurait donc une moyenne de 1000 recrues par an. Tout cela reste très hypothétique, mais vous voyez qu'on est loin des 10 à 12 000 de Guillaume Postel. Une autre manière d'envisager l'impact des levées est de considérer la proportion des enfants pris. Et nous avons vu déjà, dans des citations que j'ai faites, que Bartholomé de Janeau où Georges de Hongrie parlait d'un garçon sur 10. Chez d'autres, le taux est encore plus élevé, certains auteurs parlant d'un garçon sur 5, mais peut-être, là encore, par une confusion avec Pendjek. Et même, il est question chez certains d'un garçon sur 3, comme nous avons vu. Mais ce sont des exagérations facilement contredite par cette source officielle que j'ai déjà mentionnée, le Kanun Namé du Defchirmet de l'époque de Bayezid II. Alors, si ce Kanun Namé ne dit rien sur la périodicité des opérations, il y est énoncé, par ailleurs, qu'il faut prendre un garçon pour 40 foyers. Kirk Haneye Bir Olan. Tel est, en tout cas, le principe retenu. Et il n'est pas sans signification que ce taux relativement modéré, disons, est paru un taux optimal assorti en outre, comme nous le verrons, de clauses restrictives au niveau des familles. On voit bien que le législateur a eu le souci d'essayer de concilier les besoins militaires, c'est-à-dire le prélèvement de ces garçons, sans pour autant désorganiser sans pour autant déstabiliser la vie agricole au niveau des villages, puisque les revenus du fisc en dépendaient. Alors, bien sûr, ça n'implique pas que ce taux ait toujours et partout été respecté, si l'on tient compte aussi bien de l'urgence des besoins, dans certains cas, que de la corruption qui, d'une manière générale, gangrène toute la pratique de cette institution. En même temps, d'ailleurs, que d'un autre point de vue, elle y met un peu plus d'humanité. Quoi qu'il en soit, le fait que le taux d'1 sur 40 ait été au fondement de l'institution est confirmé par une indication de notre janissaire serbe, Constantin Mihailovic, que je cite de nouveau, et qui nous fournit en effet une indication sur ce point dans ses mémoires. Ce dernier oppose en effet les garçons provenant des raids en pays étranger, qu'il appelle Pendik, et on reconnaît facilement notre Pendjek, et d'autre part, les garçons que le sultan prend sur ses propres territoires. Or, ces garçons, il les appelle cette fois Çelik. Et les commentateurs n'ont pas toujours compris ce que signifiait cette expression, qu'elle pouvait en être l'origine, mais en fait, Çelik, c'est le persan Çileyek, c'est-à-dire 1 sur 40. Et ce taux d'1 sur 40 appelle une autre question. Ces prélèvements sont-ils faits dans l'Empire tout entier ou y a-t-il des limites territoriales? Le Kanunnamé, quand on lit ces formulations, semble dire qu'on doit prélever ces enfants chrétiens partout. On doit prélever ces enfants sur mes territoires bien gardés, dit le sultan dans ce texte. Toutefois, sous cette formulation générale qui laisse dans l'indétermination quelles zones géographiques exactes sont visées, dans lesquelles le defshirme est appliqué, cette indétermination n'est qu'une apparence, parce que en fait, on ne pratique pas le defshirme partout. On ne le pratique que dans certaines parties de l'Empire, et pour commencer, dans ce qu'on appelle la Roumélie, c'est-à-dire l'Europe orientale, le sud-est européen plus exactement, la partie européenne de l'Empire ottoman, ou du moins certaines régions de la partie européenne de l'Empire ottoman. Malgré tout, probablement dans un second temps, on a également pratiqué le defshirme en Anatolie, parmi les populations chrétiennes d'Anatolie. Donc, disons que c'est d'abord la Roumélie et aussi l'Anatolie, mais je serai un peu plus précis la semaine prochaine. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.